Aujourd'hui, nous allons donc voir la fin du Christ époux. Alors, je vais vous prendre vous en avez deux. Je vais laisser là-bas. Et la liberté dans le couple. Alors, tout d'abord, dans la foi chrétienne, le mariage a une place toute particulière. Je vous le racontais avec le premier miracle du Christ, qui sont les noces de Cana, si vous vous souvenez. Et donc, le véritable époux, ce n'est pas le couple qui est présent, mais ils sont véritables, hein, ils sont signes de la, comme on dit de manière un peu recherchée, la sponsalité, n'est-ce pas, du Messie. C'est-à-dire que le maître de cérémonie, le maître du festin, des noces, félicite l'époux d'avoir réservé du très bon vin pour la fin du repas, alors que d'habitude, le bon vin est servi en premier, et ensuite un vin moins bon quand les gens ont la langue chargée. Et donc, cette louange faite à l'époux va à Dieu. Mais cette louange va à Dieu en tant qu'il s'est incarné et en tant qu'il est présent à ce mariage, Jésus. D'où l'importance pour vous de voir le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, qui est en épisode, hein, donc il y a 6 heures. Donc, le véritable époux, c'est Dieu, qui marie son fils avec l'humanité. Et c'est assez impressionnant parce que c'est une constante qui fait que la religion est claire et limpide, elle est publique, elle n'est pas ésotérique. Voyez, si vous étudiez la Kabbale, le Zohar, la numérologie, tout ça, ben, autant essayer de compter les grains de sable de la mer. Ça doit être très intéressant de savoir combien il y a de grains de sable dans un mètre cube, mais vous perdez autant de temps. Et il y a des personnes qui passent leur vie à étudier le Zohar, la Kabbale, l'ésotérisme babylonien, la religion égyptienne aussi, c'est très intéressant. Mais c'est un trou sans fond, vous voyez, où les dieux, Thor, Odin, tout ça, c'est très... Par contre, ça peut être intéressant dans les traces de religion naturelle qu'il y a dans les religions inventées par les hommes ou suggérées par des démons comme la religion égyptienne, qui est totalement démoniaque, si vous voulez. Ce sont les démons qui ont inspiré tous les dogmes de la religion égyptienne. Et les dieux égyptiens sont des démons. Alors même le gentil, je ne sais plus, c'est Osiris qui se coupe en morceaux. Mais en soi, voyez-vous, et en plus les religions aussi à mystère, les religions à mystère orientales sont des religions ou d'initiés. Et donc moi j'ai reçu deux francs-maçons qui ont abandonné la franc-maçonnerie avec difficulté, dont un qui était ruiné, procès et compagnie, parce qu'il était un franc-maçon important. Et ils n'ont pas accepté son départ, donc ils l'ont ruiné de toute manière. Un autre, lui, pour l'instant, il est tranquille. Mais c'était très drôle de voir, parce que je demande à ce moment-là tous les papiers et tous les souvenirs, hein, pour couper. Si vous voyez, le grand ordre égyptien, quand vous validez un certain nombre de degrés ou autres, vous avez le grand ordre égyptien. Et imaginez un peu, c'est... Alors ça vous donne l'impression que vous entrez dans des connaissances cachées, que vous êtes au-dessus du profane. Voyez. Mais la vérité, elle est très simple, hein. Elle est dans le bon sens populaire, et elle est dans des paroles claires et nettes et publiques. L'évangile, la Bible, vous pouvez l'acheter partout, il n'y a aucun ésotérisme dans la Bible. C'est exotérique, on dit, hein. L'ésotérisme, c'est de vouloir trouver des choses bizarres, étranges, cachées. Tout ça, c'est une perte de temps extraordinaire. Alors, ce mariage est un très, très impressionnant parce que qui dit mariage, qui dit, comme je vous disais, le cantique des cantiques, dit un niveau d'amour exceptionnel. C'est-à-dire que Même si en ce moment le bon Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'amour, le Sacré-Cœur de Jésus va peut-être permettre une épouvantable épidémie où il y aura des millions de morts, ou alors il y aura seulement pas plus de morts que la grippe saisonnière, mais on en aura profité pour faire des manœuvres, je ne sais pas, économiques, boursières et politiques. Que ça soit dans un cas ou dans un autre, que ça soit grave et qu'on ait tort d'en plaisanter, ou que ça soit pas très grave et qu'en fait ça soit un peu utilisé. Voyez-vous, la providence divine, Dieu est amour. Et alors comment on va le voir? Je prends le mot nos dans la Bible et je vais voir donc à Saint Matthieu, chapitre 22, verset 2. Donc c'est Jésus, ce saint homme, n'est-ce pas, qui parle au peuple et qui dévoile de plus en plus profondément la volonté de Dieu et qui reproche aux hommes leur hypocrisie et qui reproche aux hommes leur jalousie, leur méchanceté et leur violence. À un moment donné, il va dire à ceux qu'il vient redresser, les prêtres du temple de Jérusalem, les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, et tout pécheur, vous voulez me tuer. Eux veulent le tuer. Et pourquoi voulez-vous me tuer? Pour quelle faute? Et moi qui suis juste, innocent, qui me convaincra de péché? Alors vous allez me dire que c'est orgueilleux de la part de Jésus de dire qu'il est innocent. Mais il l'est vraiment. Et à un moment donné, si vous voulez, quand Dieu vient sur terre et qu'il le dit, il faut que ça soit manifesté. On ne peut pas toujours cacher, justement, des vérités qui sont profondes et qui sont belles. Voyez. Et à un moment donné, justement, il est dit, mais si c'est un prophète, si c'est un envoyé de Dieu, il faut qu'il nous guérisse. Donc on le touche pour être miraculé. Et à un moment donné, Jésus s'écarte, leur dit, mais vous voulez toujours des miracles. Mais il en fait. Mais il leur dit, mais surtout, ce n'est pas le caractère surnaturel et prodigieux de ce que vous voyez qui est important. C'est la preuve que Dieu est venu jusqu'à vous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il annonce qu'il va mourir, comme le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, avaient annoncé la mort du Messie, mais on avait oblitéré, on avait caché cela dans la pensée juive, parce que c'était trop lourd de se dire que le glorieux Messie allait mourir. Comment? Pourquoi? Parce qu'il allait porter nos fautes. Voyez, c'est Isaïe chapitre 53, c'est le serviteur souffrant. Qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et il montera comme une branche menue devant lui, et comme un rejeton d'une terre altérée. Il n'a ni éclat ni beauté, et nous l'avons vu. Il n'avait pas un aspect agréable, et nous l'avons méprisé. Méprisé, le dernier des hommes, homme de douleur, et connaissant la douleur, son visage était comme caché et méprisé, et nous l'avons compté pour rien. Il a vraiment lui-même pris nos souffrances sur lui, il a lui-même porté nos douleurs, et nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié, mais lui-même il a été blessé à cause de nos péchés. C'est 600 ans avant Jésus-Christ quand même. Et vous avez dans les manuscrits de Qumran des Isaïe de 400 ans avant Jésus-Christ. Donc ensuite les gens vont discuter, mais non, Isaïe c'était pas 600 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, on a des Isaïe dans des rouleaux, dans des palimpsestes, de 400 ans avant Jésus-Christ, ou de 300 ans avant Jésus-Christ. Et ça ne s'invente pas. Il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment pris de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous avons erré. Chacun s'est détourné vers sa voie, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis, il sera conduit à la boucherie, et comme un agneau devant celui qui le tond, il sera muet et il n'ouvrira pas la bouche. C'est quasiment une description de la passion. Voyez. Et le roi David dira qu'il sera transpercé. Alors c'est Jésus explicite pourquoi il est venu. Jésus leur parla de nouveau en parabole en disant « Le royaume des cieux, hein, la vie spirituelle sur terre et la vie éternelle après le temps d'épanouissement de la vie terrestre, après la mort corporelle, mais il y a la résurrection, c'est-à-dire que Dieu aime la nature humaine même dans le futur, c'est-à-dire qu'il rétablira le corps humain. » On ne se rend pas compte que ce n'est pas seulement une religion spirituelle. Dieu ne regrette pas la terre, ne regrette pas le corps humain. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, quand il y aura le feu final qui exterminera l'Antéchrist, et le gouvernement mondial, et tout ce que vous voulez, tout le complotisme que vous pouvez imaginer, mais surtout, si vous voulez, dans l'Apocalypse, il est dit que ça sera, on ne pourra ni acheter ni vendre, on obéira absolument au maître du monde. Voyez, et ça sera étouffant. Voyez, c'est comme ce candidat aux élections présidentielles aux États-Unis qui présente un petit garçon de 9 ans qui dit « Moi, je veux être homosexuel. » Il dit « Mais bravo !» Et il fait applaudir devant tout le meeting. « Et je voudrais devenir une femme. »« Ah, mais bravo !» Tout ça. Mais si vous voulez, ça va être quasiment de l'ordre de la propagande. Et ça ne sera qu'une partie des choses. À la fin des temps, vous aurez l'euthanasie dans tous les pays. C'est-à-dire que vous aurez peur, si vous n'avez pas envie d'être tué, d'aller à l'hôpital. Vous aurez peur pour vos parents, vous aurez peur pour vous. Vous aurez peur pour un enfant dépressif, parce qu'on lui proposera tout de suite, comme en Belgique, vous avez cette fille de 22 ans qui en avait marre de dépression en dépression, elle a eu les 3 avis favorables des médecins. Et elle a été piquée, comme un toutou. Sauf que c'est un être humain. Donc, si vous voulez, Dieu nous dit qu'à un moment donné, les souffrances et le péché abonderont tellement sur la terre que ce sera l'Apocalypse et que ce sera la fin des temps et qu'il reviendra en gloire. Et qu'à ce moment-là, tous ceux qui sont morts dans les siècles passés ressusciteront. Les uns pour retourner en enfer, s'ils ont choisi la haine et la malice, sans pouvoir changer d'avis, parce que nous sommes des êtres libres et si des prêtres ou des évêques vous disent qu'on peut changer d'avis dans le futur, c'est faux. Après la mort, on ne change pas d'avis sur nos choix. Et les autres ressusciteront pour être sur la terre, dans une vie très heureuse. C'est un peu bizarre de dire ça dans un préparation mariage, mais la vie sera uniquement d'amour personnel. Si on a été marié 2 fois, on aimera son épouse et son épouse. On aimera cette femme et cette femme. C'est pas de la polygamie. Si vous voulez, on aimera chaque personne par son nom. Une maman, un papa n'auront plus de préférence s'ils en avaient eu une préférence. Ils aimeront leurs enfants de manière égale. Enfin égale, épanouie et profonde. Et il n'y aura plus de nouveaux enfants, il n'y aura plus de vie charnelle. Alors est-ce qu'on mangera, est-ce qu'on buvera, ça c'est la grande inconnue. Mais Jésus a dit, nous n'aurons plus de nouveaux enfants dans la vie éternelle. Mais par contre, pourtant on aura un nouveau corps, mais un corps glorieux, mais avec de la chair et des os, hein. Immortel. Et pas sur une terre lunaire brûlée par le feu final, hein. Donc, réorné. Qu'est-ce que le bon Dieu va mettre comme, je ne sais pas, comme fleurs, comme animaux peut-être aussi. Enfin, à quoi ressemblera la terre qui accompagnera ceux qui ont aimé pour la beauté que nous aurons à voir de nos yeux. Ce n'est pas un stand de témoins de Jéhovah dont je vous parle, hein, qui vous présente une de leurs brochures, le paradis terrestre, ça sera merveilleux, tout le monde sera là, on discutera avec un lion et tout. C'est véritablement la foi biblique. C'est-à-dire qu'après l'Apocalypse, il y aura la résurrection des corps et la vie éternelle spirituelle très heureuse. Sans une ombre, ni maladie, ni mort, et ni péché. Parce que si vous voulez, nous connaîtrons tellement l'autre qu'il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de possibilité de péché. Et en plus, nous verrons Dieu. Dieu se montrera à nous et nous aurons un. Si vous voulez, notre intelligence sera satisfaite, sera pleine de tout ce qu'elle découvrira de la source de la création, de la source de l'amour. Et alors voilà pourquoi Jésus nous dit, entre la vie terrestre et la vie éternelle, ces paraboles. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. C'est quand même particulier. C'est des paraboles incroyables. C'est la vie, ça ressemble à un mariage. Le mariage d'un père de son fils, qui marie son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les conviés aux noces. C'est les êtres humains, à travers les siècles. Mais ils ne voulurent pas venir. Étrange, hein? Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, dites aux convives, voilà que j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et les animaux engraissés ont été tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Ah oui, mais il y a le coronavirus, donc il n'y a pas de repas, tout est interdit. Voilà. Donc vous ferez une dînette, voilà. En cosmonaute avec les machins. Voilà. On verra bien. Mais ils n'en tinrent pas compte et ils s'en allèrent, l'un à sa maison des champs, à l'autre à son négoce. Les autres se saisirent des serviteurs et après les avoir outragés, ils les tuèrent. En quelques lignes, Jésus résume la Bible, l'histoire humaine. Les êtres humains qui se foutent de la religion, qui se foutent de Dieu, mais aussi ceux qui sont jaloux des prophètes. Jérémie a été tué, lapidé. Isaïe a été coupé en deux. Hein? Zacharie a été tué dans le temple, entre l'autel des sacrifices et le saint. Mais les prêtres ont été tués à la Révolution française, hein, à la Révolution espagnole, on déterrait des carmélites, on les disposait contre un mur, enfin ce qu'il en restait, n'est-ce pas, ils les fusillaient. La Passionaria en Espagne, elle a égorgé un prêtre avec ses dents, elle lui a mangé la glotte. Elle a terminé ses jours dans la Russie soviétique. Après la guerre d'Espagne, elle avait été accueillie par Staline. Un autre saint homme. Comme dit la petite histoire, vous savez, il se lève le matin, il y a un magnifique soleil de l'Est. Et le soleil lui dit, bonjour, soleil de la Terre. Comment? Moi, Staline? Oui, je suis le soleil du ciel, mais tu es le soleil de la terre, tu règnes sur un empire. Il rentre dans son bureau, il fait exécuter 50 000 personnes, tout ça, machin, il donne des ordres. Et à midi, il est là, il sort, il dit, je suis à mon zénith, tu es à ton zénith. Il travaille, tout ça, il donne des ordres, il fait construire d'autres camps, voilà, et il sort le soir et. Le soleil ne lui parle pas. Un beau soleil couchant à l'ouest. Tu ne me dis rien, soleil? Je suis à l'ouest. Eh bien, voyez-vous, toutes ces personnes, on en rit, mais c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de violence, voyez, tout ça. Vous savez, le plus grand cimetière de prêtres, c'est un camp de concentration nazi. C'est là où il y a le plus grand nombre de prêtres, de tombes. Sont morts des privations dans, je crois que c'est un camp qui était en Pologne. Car contrairement à ce qu'on a pu dire sur Pie XII, justement, Pie XII, lui, avait été quand même considéré comme juste parmi les nations parce qu'il avait sauvé le plus grand nombre de juifs en Italie et qu'il avait parlé contre l'extermination des juifs à Noël 42, pendant que beaucoup d'hommes politiques n'en parlaient pas et ne savaient pas ou n'osaient pas en parler. Enfin, en tout cas, cette violence, vous voyez, elle est là. Les autres se saisirent des prêtres, des prophètes, Et après les avoir outragés, ils les tuèrent. Or, lorsque le roi l'eut appris, il en fut irrité. Donc, attention, hein, le bon Dieu peut aussi punir. Et Jésus ne nous le cache pas. De nos jours, on est, mais non, tout ça, il n'y a pas de punition. Jésus nous dit la justice et la miséricorde. Et ayant envoyé ses armées, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Ouh, c'est le Sacré-Cœur qui dit ça. Hein. Et il dit à ses serviteurs, les noces ont été préparées, mais ceux qui avaient été conviés n'en ont pas été dignes. Allez donc dans les carrefours, et tous ceux que vous trouverez, appelez-les aux noces. Voyez. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des vies publiques, des vies religieuses, mais qui sont mauvaises et malicieuses. Dieu appelle tout le monde. Et donc, quand les Juifs étaient arrivés à un niveau de sainteté pour les uns et un niveau d'orgueil pour les autres, Saint Jean-Baptiste leur dit, de ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Arrêtez de vous enorgueillir d'être juifs, mais suivez les 10 commandements, suivez la loi et les prophètes. Et donc ici, on va aller partout. Et donc Jésus annonce déjà que des non-juifs vont être appelés par cette parabole. Et ses serviteurs, s'étant dispersés sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais, et la salle des noces fut remplie de convives. Or le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale. Voyez, vous avez votre repas, et puis il y en a un qui arrive, qui est en short et en t-shirt. Et ben, quand même. Enfin, à moins que vous ayez un dress code particulier pour votre mariage, vous venez décontracté, voilà. Bon. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir la tunique nuptiale ?» Et ça, c'est très important, hein, dans la bouche de Jésus, qui est le Verbe du Père. « Mon ami. » Lui est mauvais. Il est là parce que il a trouvé son intérêt, mais il n'aime pas. Il n'aime pas le père du marié, il n'aime pas le marié, il n'aime pas les noces, il n'aime personne. Et celui-ci resta muet. Mais muet de haine. Sinon, vous ne comprenez pas que c'est une parabole du Nouveau Testament et de l'Évangile. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-le. Jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là sera les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Et donc, cette parabole est forte, si vous voulez. Alors, on va essayer d'en trouver une moins forte, moins agressive. C'est pas sûr. Hein. Luc 12, 36. Saignez vos reins et ayez en vos mains les lampes allumées, semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Allez. Donc vous êtes là, vous avez fêté votre mariage et tout, et puis vous imaginez que vous soyez de nobles personnes avec beaucoup d'amour pour vos serviteurs, et pour vous revenez à la partie du château où vous allez. À la chambre nuptiale, et vous attendez que vos serviteurs aient préparé le lit, vous ouvrent les portes, parce que vous revenez des noces. En fait, ici, le mariage, c'est Dieu qui est venu sur terre, qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Le vin des noces, c'est son sang. Mais le mariage est consommé, il est ressuscité. Et il est là pour nous donner la vie. Le mariage, c'est la vie. Et que Dieu vous permette d'avoir des enfants. Sinon, votre amour vous vaudra de donner des grâces et d'aimer autour de vous comme des enfants. Si vous avez la résolution d'adopter, c'est quelque chose de très, très fort. Je ne vous parle pas de courage, parce qu'on peut ne pas adopter. Mais, voyez-vous, l'Église vous demande de ne pas multiplier des petits embryons qui vont mourir dans des tubes, et il vous demande, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, d'adopter si vous le souhaitez. Sinon, comme le dit l'époux de la mère de Samuel, « Mon amour ne te vaut-il pas 10 enfants ?» Et c'est l'amour mutuel, et l'amour pour ses enfants, mais aussi l'amour pour son prochain, qui fait l'homme. Pas le nombre de nos enfants, et même pas les enfants en eux-mêmes. Mais notre nature, si vous voulez, est extatique. On veut transmettre la vie. Et un prêtre célibataire, une religieuse célibataire, elle porte des fruits de maternels, paternels, qui sont véritables. Et surtout les prêtres diocésains. Mais, si vous voulez, il y a une empathie paternelle profonde chez un prêtre religieux et moine, chez des religieuses cloîtrées, parce que tout se résume dans l'amour. Et l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est la bienveillance, l'amour. Et donc, nous sommes des natures qui sont heureuses lorsqu'on est bienveillant. C'est ça qui nous rend heureux. D'où l'importance du pardon lorsqu'on est vexé, lorsqu'on est froissé, tout ça, parce que ça ne sert à rien de ressasser un vrai mal ou un faux mal, d'ailleurs. Parfois, on se vexe par quiproquo. Mais la capacité qu'on a de pardonner est bien plus noble. Vous serez semblable à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin que lorsqu'il viendra et frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, quand il viendra, trouvera éveillés. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, il mettra un tablier, il les fera mettre à table. Vous voyez ? Vous n'avez pas participé à la partie la plus intense du mariage, mais comme vous avez été fidèle, je vais vous faire un repas. C'est la suite des noces, c'est la suite du repas en fait. Et passant de l'un à l'autre, il les servira. Dieu qui sert. Et s'il vient à la seconde veille, donc la première veille, je crois que c'est 9h, la deuxième veille, ça doit être minuit, la troisième veille, ça doit être 3h du matin. Dans les veilles militaires, hein, en fait, c'est des références dans des veilles de l'époque. S'il vient à la troisième veille et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ses serviteurs. Car sachez bien que si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et vous aussi, tenez-vous prêts, parce que c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Pour nous, la mort, c'est pas grand-chose, c'est notre âme qui sort du corps et qui est jugée par Dieu, par Jésus en personne. Donc on ne devrait pas avoir trop peur de la mort, parce que c'est un moment un peu douloureux, dans le sens que notre nature aspire à la vie éternelle. Donc le fait que l'âme sorte du corps, que notre corps se décompose et pourrisse, c'est pas notre nature. Mais par contre, notre âme continue à exister, et elle entre en communication directe avec Dieu. Elle est jugée, et elle est, si elle a choisi l'amour, elle rentre dans un bonheur extraordinaire. Et donc, c'est comme un mariage réussi. Voilà. Autre parabole de mariage, c'est à nouveau Saint-Luc. Chapitre 14, verset 8. Lorsque tu seras invité à des noces, décidément, hein, c'est fou, hein, comme Jésus parle de ses noces. Ne te mets pas à la première place, de peur que quelqu'un plus considéré que toi n'ait été invité aussi. Faites attention à ceux que vous avez invités, hein, sur votre liste, hein, et les plans de table. Hein. Et que vienne celui qui t'a invité, toi et lui, ne viennent et ne te disent, Donne cette place à celui-ci et qu'alors tu n'ailles avec confusion occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand viendra celui qui t'a confié, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera une gloire pour toi devant ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'exalte sera humilié, et quiconque s'humilie sera exalté. C'est assez impressionnant de voir qu'il Jésus n'arrête pas de comparer à un repas la vie. Et Jésus a beaucoup mangé avec ses apôtres, avec des pharisiens, avec des publicains, avec des pécheurs qui déclaraient leur conversion. Mais Jésus a énormément mangé. Et d'ailleurs, ce qui annonçait sa mort sur la croix, c'était le repas pascal du peuple hébreu quittant l'Égypte pour aller en Terre Sainte. Les noces de Cana, je vous les ai déjà dites, mais c'est très impressionnant, les noces de Cana. C'est vraiment Jésus en personne qui est un mariage, qui sanctifie le mariage. Et alors, ici, ils vous mettent tout de suite l'Apocalypse. Alors, n'ayez pas peur, parce que justement, ce sont des visions grandioses. Chapitre 19, verset 7. Alors, pour arriver au verset 7, il faut vous dire toute la puissance de ce livre sur la fin des temps. Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel, disant « Alléluia ! Le salut, la gloire et la vertu sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, et qu'il a fait justice de la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa prostitution, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs répandu par ses mains. » Je ne sais pas comment ce gouvernement mondial sera organisé, hein, il s'appelle Babylone, mais il y aura une persécution pour laquelle la police soviétique et la police chinoise sembleront être des personnes, des gendarmes de Bourville. Donc on verra bien. Et une seconde fois, ils dirent « Alléluia !» Et sa fumée monte dans les siècles des siècles, la Babylone détruite. Alors les 24 vieillards et les 4 animaux tombèrent et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia ». Les 4 animaux, c'est les 4 évangélistes. C'est le bœuf, l'aigle, l'homme et le lion de Saint-Marc. Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » J'entendis alors comme la voix d'une grande multitude, comme la voix de grandes eaux, et comme de grands coups de tonnerre, qui disaient « Alléluia ! Il règne le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. » Voilà, comment dire, à un moment donné, si vous voulez, Jésus s'est fait tout petit, il s'est fait frapper, il s'est fait crucifier, mais à un moment donné, il dit « C'est moi le Créateur. Hein, regardez un peu le ciel et la terre, regardez l'espace, regardez les planètes, regardez le soleil. » Le soleil, c'est une petite étoile hein, dans le cosmos. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est impressionnant, une boule de gaz qui explose, des bombes nucléaires en permanence. C'est l'hydrogène, je crois. Hein. C'est une bombache, le soleil. Enfin, réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse et donnons-lui la gloire. Attention. Parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau. Et que son épouse s'y est préparée. Je ne sais pas à qui vous vous rendez compte, vous êtes comparé à l'humanité. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et blanc. Car le fin lin, ce sont les actes de justice des saints. Il me dit alors, écrit, « Bienheureux ceux qui ont été appelés au souper des noces de l'agneau. » Et il ajouta, ces paroles de Dieu sont véridiques. Aussitôt je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis serviteur comme toi et comme tes frères qui ont le témoignage de Jésus. C'est un ange hein, qui parle à Saint Jean. Donc là, il dit, non. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voilà un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et combat avec justice. J'arrête là. Quoique, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient beaucoup de diadèmes. Il avait un nom écrit que nul ne connaît que lui. Il était vêtu d'une robe teinte de sang, et le nom dont on l'appelle est le Verbe de Dieu. C'est Jésus qui sort du calvaire. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc et pur. Et de sa bouche sort un glaive à deux tranchants pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et c'est lui qui foule le pressoir du vin de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il porte écrit sur son vêtement « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'est-à-dire que quand on aura fait souffrir tous les innocents, les femmes, les prisonniers, les gens dans des camps comme en 39-45, si vous voulez, le bon Dieu dira « C'est fini maintenant ». Plus de guerre, plus de souffrance dans ma création. Vous et maintenant, vous savez tous, il n'y a plus d'ignorants. Maintenant, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Alors, pour terminer, je vous parlerai de l'époux dont parlait Saint Jean-Baptiste, mais en lisant de manière plus particulière.